Merci Saint-Esprit de nous réunir ce soir et de venir sur cette assemblée pour faire l'œuvre du Père, l'œuvre du Christ. Viens ouvrir nos cœurs à ce que tu veux nous dire. Donne-nous la paix. Je sais que dans cette assemblée, les attentes sont très fortes chez certains. Donc Saint-Esprit, donne-nous la paix. Donne-nous déjà cette paix du cœur qui nous permet d'accueillir ta présence et la présence du Christ parmi nous. De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 23, à partir du verset 33. Lorsqu'on fut arrivé au lieu-dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête « Celui-ci est le roi des Juifs. » Voilà, je vous propose de méditer cet épisode de la Passion du Christ. Nous approchons de la Semaine Sainte, du Dimanche des Rameaux, la Semaine Sainte. Nous aurons l'occasion d'entendre plusieurs fois l'Évangile de la Passion du Christ si nous suivons les différents offices qui sont proposés. Cette Passion du Christ, c'est pas simplement, je dirais, un mauvais moment à passer. On se dit, ben ça y est, la Semaine Sainte, on va réécouter la souffrance du Christ. C'est le sommet des Évangiles. C'est le sommet des évangiles, la mort et la résurrection du Christ, c'est le sommet des évangiles. L'évangile ne sent qu'une introduction, une longue introduction à cet événement de la passion du Christ où Jésus nous sauve par sa mort et ressuscite pour nous ouvrir la vie. Et c'est hallucinant, évidemment, de contempler notre Seigneur qui est Dieu, déjà comprendre l'incarnation, c'est-à-dire réaliser que le Fils de Dieu s'est fait homme, c'est déjà immense. Mais alors comprendre en plus et accepter que cet homme, Jésus, qui a tout pouvoir, toute puissance que le Père lui a donné, accepte d'être crucifié au milieu de deux brigands, évidemment là ça dépasse largement notre compréhension et ça dépasse aussi ce que nous pouvons envisager. Mais le Seigneur a voulu être crucifié entre deux brigands pour nous sauver. Il a voulu être crucifié comme un brigand. Il a accepté cette humiliation extrême, lui qui vient pour nous sauver, qui n'est qu'amour, qui n'est que paix, l'humiliation extrême et la souffrance extrême, parce qu'on sait que les souffrances de la crucifixion sont terribles, d'être crucifié au milieu de deux brigands, comme s'il était un brigand. Et ces derniers temps, dans les actualités, on parle encore de prêtres qui ont commis des actes de pédophilie. Et je me dis, moi, en tant que prêtre, ben voilà, je sais que sur les réseaux sociaux, le prêtre me disait, ben voilà, les prêtres, on les considère tous comme des pédophiles, parce que quelques-uns ont fait des actes très graves. Et ben je me dis, ben voilà, parfois on doit accepter d'être crucifié comme deux brigands. Je dirais, c'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur nous donne à nous prêtres, pas simplement être considérés comme des gens bien, mais d'être aussi considérés parfois comme des brigands, parce que lui a voulu être considéré comme un brigand. Et vous, ça peut vous arriver aussi d'être mal jugé dans votre travail, par des amis. Parfois, il y a des choses qu'on fait qui méritent qu'on soit mal jugé, mais il y a aussi très souvent des cas où on est condamné facilement. On est dans une société qui aime bien accuser et condamner pour une raison très simple. C'est que comme tout le monde se sent coupable, c'est ce que dit une psychologue américaine, tout le monde a un sentiment de culpabilité très fort en soi. Eh bien, pour s'en libérer, on va projeter nos fautes, nos péchés sur les autres. Donc, quand on trouve un bouc émissaire, quelqu'un à qui accuser, même s'il a fait vraiment du mal, alors on le charge de tous nos péchés, un peu comme Israël chargeait un bouc de tous ses péchés et l'envoyait dans le désert mourir. Voilà. Donc, on est une société blessée et on aime bien charger un maximum ceux qui sont les boucs émissaires de nos sociétés, parfois à juste titre des gens qui ont fait du mal, mais sur lesquels on va vraiment taper un maximum, puis parfois aussi sur des gens innocents sur lesquels on va taper un maximum pour se décharger de sa culpabilité intérieure. Et le Seigneur Jésus accepte de prendre cette position du bouc émissaire parmi nous pour nous montrer notre blessure, pour nous dire « Regarde, regarde la blessure de ton cœur, regarde combien je t'aime. » Et la violence se nourrit de la violence, on le voit bien actuellement dans certains pays où tout le monde se bat les uns contre les autres, on ne sait même plus qui est pour qui et qui est contre qui, tellement tout le monde se bat. Eh bien, la violence nourrit la violence. Et la manière de désarmer la violence, c'est la paix. C'est d'accepter d'être crucifié comme le Seigneur. Et c'est d'offrir ce pardon qu'il donne sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette formule est très belle parce que Jésus, en quelque sorte, prie son Père sur la croix alors qu'il est en train de souffrir abominablement. Non pas de se venger contre ses persécuteurs, mais de leur pardonner. Et on sait que quand nous-mêmes, on souffre beaucoup, parfois on n'a pas la force de donner le pardon, tellement on a été blessé. Et à ce moment-là, c'est bien de faire comme Jésus en disant ben, « Père, pardonne-leur » ou « Jésus, pardonne-leur, donne-leur ce pardon ». Le Seigneur laisse le Père pardonner pour lui. Il laisse le Père offrir ce pardon, parce qu'en Jésus, c'est d'abord le Père qui est offensé et qui est en quelque sorte mis sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur presque excuse ceux qui le crucifient. Alors les chefs ricanent, les soldats aussi, « Sauve-toi toi-même, si tu es le Messie, l'élu. » Au moment des tentations du Christ, déjà le tentateur disait à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Et là on voit qu'à travers les chefs, les soldats, le diable, en quelque sorte, agit directement, les inspire directement, « Sauve-toi toi-même. » Et voilà, Jésus n'est pas venu sur terre pour sauver ses intérêts, si j'ose dire, mais pour sauver les autres. Le samedi soir, je prends souvent un train qui est souvent bondé, et quand, c'est bête, mais quand la voie est indiquée sur le tableau, tout le monde court pour avoir sa place assise, pour être sûr d'avoir sa place assise, voilà. Que le voisin ne l'ait pas, c'est pas trop grave, mais soit on veut l'avoir, vous voyez. On est chacun à la recherche de la défense de son intérêt, et on est prêt parfois à se battre pour avoir une place assise dans le train, pour un voyage qui va durer une demi-heure ou une heure, c'est sûr que c'est pas marrant de rester une demi-heure ou une heure debout. Mais bon, mais heureusement, il y en a aussi qui acceptent de donner leur place aux autres. Il y en a qui, eh ben, à un moment donné, peut-être sont pris par cette démarche du chacun pour soi, Dieu pour tous, si j'ose dire. Et puis à un moment donné, ils disent « Non, c'est trop bête, je vais quand même donner ma place à telle personne et à telle personne. » Et je remarque dans le train que ce n'est pas toujours les gens bien habillés, bien comme il faut, qui donnent leur place. C'est parfois des gens, entre guillemets, un peu des loubards. Et puis parfois, ce sont eux qui vont donner leur place aux autres. Donc parfois, les apparences sont trompeuses. Voilà. Et donc le Seigneur ne vient pas se sauver nous-mêmes, lui-même, il vient nous sauver. Et il nous invite, nous aussi, à accepter, parfois on ne peut pas le faire autant que lui, mais de renoncer à notre intérêt personnel pour les autres. Et ça, c'est vraiment le signe de l'amour et qu'on en renonce au péché. Voilà. Alors ce soir, je vais vous donner quelques témoignages de l'œuvre magnifique de Dieu dans cette prière. Tous les jeudis, on donne des témoignages nouveaux grâce à tous ceux qui, Dieu soit les viennent raconter ce que le Seigneur, les merveilles que le Seigneur a fait pour eux. Alors la semaine dernière, c'était Maryse qui était venue raconter trois grâces qu'elle avait reçues pour sa famille, pas pour elle-même, pour trois personnes de sa famille, en insistant sur la foi. Alors ce soir, je vais lire simplement ces témoignages. Alors, par exemple, le témoignage de deux couples, Christian et Marie, Patrick et Dominique, qui sont venus à la prière des malades des Pyrénées-Atlantiques. Je sais qu'ici, dans cette prière, il y en a qui viennent de loin. Ben, eux sont venus une fois et le Seigneur a exaucé leur prière. Vous allez voir. Le 13 novembre 2014, nous sommes venus à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, car nous sommes deux couples de la même famille ayant des problèmes d'infertilité. Étant désespérés depuis 2 et 4 ans, nous avions besoin de réconfort et d'espoir, d'avoir la grâce d'avoir des enfants. Nous avons été très touchés et émus par la chaleur et l'amour ambiant de la cérémonie. Une parole de connaissance a été donnée sur, tant qu'elle ne dit pas la parole de connaissance, mais probablement sur le fait que le Seigneur va rendre des couples fertiles, ou au moins un couple. À cet instant, nous avons eu la sensation d'avoir été touchés par cette parole sainte. 2 et 6 mois après, donc nous, là c'est Marie et Dominique, donc les épouses de Christian et de Patrick, nous avons eu le bonheur de tomber enceinte. Donc les deux ont été exaucés, sont tombés enceintes 2 et 6 mois après être venus ici. Nous tenons à témoigner de notre histoire afin de donner l'espoir et le réconfort à toute personne qui souhaite guérir. Notre foi et confiance en Jésus nous ont aidés dans cette épreuve de vie. À ce jour, nous avons la joie d'être des parents comblés d'amour par nos filles, Emma et Laura, donc c'est les filles qu'ils ont eues. Merci Seigneur pour l'amour et la grâce que vous nous avez accordée. Amen. Voilà. Alors, la semaine dernière, peut-être vous vous rappelez qu'il y a eu une parole de connaissance qui disait que le Seigneur donnait la grâce à une personne de pardonner. La parole était vague, donc tout le monde pouvait se sentir concerné. Peut-être plusieurs personnes se sont senties concernées parce qu'une parole peut toucher et agir dans plusieurs personnes. Mais il y a une personne en particulier qui a été touchée par cette parole. C'est une personne qui a divorcé il y a 20 ans, qui depuis 20 ans, ça a dû très mal se passer avec son conjoint, souffre et a une blessure énorme par rapport à lui et n'arrive pas à lui pardonner tout le mal qu'il lui a fait. Et au moment où cette parole a été donnée, cette personne a reçu dans son cœur la paix et a reçu la force, la première fois depuis 20 ans, de pardonner à son conjoint qu'il avait tant blessé et duquel elle a divorcé. Et le lendemain, elle est allée à la rue du Bac, à la messe, et au moment de donner le signe de paix au voisin, comme on le fait pendant la messe parfois, un homme qui est devant elle s'est retourné pour lui donner la paix, c'était son conjoint, qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans. Voilà, donc ils ont chacun leur chemin maintenant, mais vous voyez, ils ont pu se pardonner, et elle a fait cet acte de pardon. Résultat, le Seigneur lui a fait rencontrer son conjoint, qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans, ils ont pu se pardonner. Quand elle a rencontré cela, donc samedi, à un prêtre de la paroisse, elle était dans une joie extraordinaire. Voilà, merci Seigneur pour cette grâce. Alors sinon, quelques autres guérisons que je raconte rapidement. Bernadette avait une hépatite depuis 10 ans. Elle est venue à la prière des malades le 25 septembre 2014. Une parole de connaissance a annoncé la guérison d'une hépatite et une semaine après, on lui a fait un examen et on a constaté qu'elle n'avait plus d'hépatite. Donc tous ses traitements ont été immédiatement arrêtés. Merci Seigneur pour cette grâce. Voilà, puis il y a aussi Sophie qui avait un cancer du sein, elle a subi une chimio, une radiothérapie, mais les médecins voulaient quand même lui faire une ablation du sein. Elle a supplié le Seigneur de la sauver à Saint-Nicolas, à la prière des malades, et finalement elle a une rémission totale, et donc il n'y a plus d'ablation du sein. Merci Seigneur pour Sophie. Voilà, je vais terminer avec cette guérison, parce qu'il n'y a pas que des guérisons physiques, il y a aussi des guérisons psychologiques ou spirituelles. Olivier souffrait depuis mars 2000 de grandes souffrances psychologiques liées à un événement traumatique. En mars 2015, une parole de connaissance s'est adressée à lui. Et suite à cela, il a reçu une grande paix intérieure. Voilà, la paix, c'est le plus grand don que Dieu peut nous faire. Une grande paix intérieure. Ses souffrances se sont apaisées. Ça ne veut pas dire qu'il ne souffre plus complètement, m'a-t-il dit. Mais quand même, ça a complètement changé entre avant cette parole et après. Il était quand même largement apaisé et largement consolé. Et du coup, il a découvert que Dieu s'occupe de lui et il le remercie infiniment. Voilà. Eh bien, tous ces témoignages doivent nous donner confiance que le Seigneur agit dans cette prière, que tout le monde ne sera pas guéri, certes, mais ce soir, il va opérer des guérisons selon sa volonté, selon son saint désir. Donc, soyons comme des enfants devant lui, faisons-lui confiance, disons-lui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen.